Bonjour. Aujourd'hui, à l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes, nous accueillons trois femmes entrepreneurs au studio de la radio. Régine Herviti, Margot Marty et Muriel Moscardini. Bonjour mesdames.
Bonjour, Muriel Moscardini. Je suis Head of Development aux États-Unis dans la Data et l'AI.
Bonjour, je m'appelle Margot Marty et je suis responsable des événements à la Chambre de commerce de Barcelone.
Bonjour, je suis Régine Herviti et je suis directrice générale de Mouetensi pour l'Espagne et le Portugal.
Bonjour à toutes les trois. Aujourd'hui, on est ici parce qu'on est là veille du 8 mars et vous êtes là en tant que femme dans des entreprises ou à la Chambre de commerce qui occupe des positions importantes. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est que vous soyez une figure d'exemple, entre guillemets, pour nos élèves aujourd'hui. À ce titre, je vais vous demander de parler en quelques lignes, on va dire, de votre parcours à toutes les trois.
Bonjour, Margot Marty, donc je suis responsable des événements à la Chambre de commerce. Je suis à Barcelone depuis 10 ans. J'ai eu différentes expériences professionnelles, donc j'ai d'abord eu un parcours assez général en école de commerce. Et ensuite, j'ai eu une envie de voyager et de découvrir un peu des différents pays et de commencer ma carrière à l'international. J'ai eu l'occasion de partir 2 ans au Vietnam, travailler chez Business France, chez L'Oréal pour des grands groupes. Et ensuite, je suis revenue en France et forcément, on est un peu piqué après. Donc, on a envie de repartir à l'étranger et pas rester trop loin non plus de la France. Donc, j'ai eu l'occasion de repartir à Barcelone et de faire un contrat VIE. Travaillé pour une grande entreprise aussi et j'étais plutôt dans des fonctions commerciales. Je suis restée quelques années dans des fonctions commerciales dans des grandes entreprises et ensuite j'avais envie de travailler dans un métier qui me passionne, l'événementiel. Donc j'ai eu l'occasion de me rapprocher de la chambre et aujourd'hui d'arriver à la chambre de commerce en tant que responsable des événements à la chambre de commerce de Barcelone.
Effectivement, le voyage, c'est un objectif. Moi du coup, je sais que je fais ça aussi en faisant mon stage à Barcelone, c'est quand même très sympathique.
Bonjour, donc Muriel Moscardini. Moi, j'ai un parcours très technique. J'ai fait Maths-Sup, Maths-P, école d'ingénieur, la voie des années 90. Et j'ai démarré une carrière à l'international tout de suite, avec beaucoup d'envie en fait, de faire du multiculturel. Et donc, ça m'a suivi depuis 30 ans. J'ai démarré 15 ans dans le corporate, dans 2 grands groupes en France. Je suis arrivé en Espagne en 2006, dans un de ces grands groupes. Et ensuite, j'ai fait le saut vers l'entrepreneuriat en 2008. Dans une boîte dans le multimédia qu'on a menée aux US, ce qui m'a fait bouger aussi aux US avec mon mari et mes enfants. Et on est revenu en Espagne où j'ai continué l'entrepreneuriat et particulièrement dans le monde de la start-up scale-up. J'ai cofondé la French Tech à Barcelone en 2016 et la French Tech à Madrid en 2023. J'étais très présente dans ces milieux-là et très récemment en 2024, après avoir monté une nouvelle boîte aux US, à New York, dans la transformation digitale, j'ai rejoint après ça en fait un groupe de conseil qui appartient au groupe Alten, qui est un grand groupe français. Donc ce groupe de conseil SDG USA et la branche Data et AI. On développe aux États-Unis le groupe aujourd'hui, donc je suis en charge de plusieurs industries, la santé, le luxe et la mode et la logistique.
Donc je suis Régine Herviti. Alors moi j'ai fait une école de commerce après une prépa HEC. Je savais pas vraiment ce que je voulais faire honnêtement. J'ai choisi une école de commerce parce que c'était assez large et j'ai commencé ma carrière en commercial chez Nestlé et ensuite j'ai occupé plusieurs postes. Après Nestlé, j'ai intégré le groupe LVMH dans la division vin et spiritueux. Là encore, j'y connaissais rien à la base mais j'étais très attirée par LVMH parce que je savais qu'il y aurait des passerelles potentiellement vers d'autres divisions et qu'il y avait une ouverture sur l'international. Et j'ai eu la chance, il y a 6 ans, de pouvoir venir en Espagne. Le siège est basé à Barcelone. C'est le siège pour Espagne et Portugal, donc ce qui permet d'avoir des équipes un petit peu partout et pour moi de découvrir 2 pays et 2 cultures.
Est-ce que vous pourriez nous dire aussi quelques mots sur ce que c'est que d'être une femme dans vos entreprises respectives, dans la chambre de commerce? Est-ce que ça change quelque chose? Est-ce que ça a été difficile à certains moments? Est-ce que ça fait aucune différence pour vous au quotidien? Est-ce que vous pouvez nous dire quelque chose à ce sujet?
Alors déjà, moi, je viens d'un milieu très masculin. J'ai 3 frères, donc j'ai toujours réussi à m'adapter quand même dans un univers masculin. Et à la chambre de commerce, on est assez mixte, on est assez équilibré. Moi, je trouve ça quand même intéressant d'avoir une mixité parce que je me suis rendu compte, là, j'étais en séminaire avec toutes les chambres de commerce cette semaine de d'autres pays et je me suis rendu compte qu'il y avait une majorité de femmes dans leurs chambres et j'ai pas mal échangé avec eux. Et moi, je trouve ça bien d'avoir une parité quand même pour l'échange et de pas avoir forcément une majorité de femmes dans l'entreprise, mais en tout cas en termes d'intégration et d'épanouissement au quotidien, moi je trouve ça super.
Ma question c'était aussi par rapport au fait que vous occupez parfois des postes à responsabilité. Dans ces cas-là, est-ce que ça a été difficile d'être prise au sérieux du coup à certains moments ?
À partir du moment où on est convaincu de ses compétences, moi j'ai pas eu de problème sur le fait que je pourrais m'imposer sur mon poste et pour assumer mes fonctions. Non, je trouve. Enfin, en tout cas, j'étais convaincue de mes compétences, donc je me suis pas sentie en infériorité ou quoi que ce soit.
Bon, ben, je vais jeter un pavé dans la mare. Moi, ça fait 30 ans que je suis dans la tech, donc c'est pas une surprise. C'est pas un milieu très très ouvert aux femmes. Pour plein de raisons, ça fait des années hein, que je participe à l'ouverture des esprits, des mentalités, dans les écoles d'ailleurs, sur les STEM, hein, tout ce qu'on appelle les STEM. Personnellement, j'ai jamais eu de problème, probablement aussi comme toi pour le milieu duquel je viens. J'ai une sœur, mais j'ai surtout un papa italien qui nous a élevés d'une telle manière que j'ai jamais ressenti de problème particulier, mais c'est un problème réel. Et surtout dans la tech, et donc je pense que c'est important qu'on puisse ouvrir avec des rôles modèles, ouvrir les mentalités auprès des jeunes filles et des garçons, parce que je suis moi convaincu de l'importance de la diversité, pas seulement de genre, la diversité de culture, la diversité d'éducation, la diversité d'origine, la diversité d'âge. Et je pense que c'est important de pouvoir avoir des rôles modèles un peu divers pour pouvoir ouvrir les mentalités et surtout, je crois fermement dans l'égalité des opportunités et qu'ensuite chacun choisisse. Et que donc on laisse l'opportunité à chacun de grandir dans l'environnement qu'il a choisi. Donc oui, je pense que dans la tech, on a encore beaucoup de chemin à faire parce que c'est un milieu qui est quand même encore assez masculin. Et j'ai rencontré beaucoup de jeunes femmes qui ont un peu du mal.
On pourrait penser effectivement qu'avec les années, surtout en 2025, on n'a plus de problème de sexisme. Mais effectivement, moi je suis arrivée à Polytechnique cette année. Et à Polytechnique, on est 15% de filles. Et c'est un pourcentage qui est en baisse depuis plusieurs années. Donc c'est vrai que ça souligne là aussi l'importance de faire l'ambassade des femmes en sciences et dans les autres domaines.
Moi, je l'ai vécu vraiment, le sexisme, parce que quand j'ai commencé, c'était donc une carrière commerciale. J'étais la seule femme dans mon équipe. Et ensuite, j'ai intégré rapidement l'équipe de négociation. Alors, quand je réussissais une négociation, mes collègues disaient que c'était parce que j'étais une femme, donc les acheteurs avaient été plus sympas avec moi. Et quand je réussissais pas, c'était bah, « c'est normal, qu'est-ce qu'on met une femme en égo, c'est pas du tout le profil, il faut rester entre mecs ». Les temps ont changé, mais je veux dire que les 10 premières années de ma carrière, c'était constant. Quand j'ai commencé à prendre des rôles de management, chaque fois que je proposais une fille pour une promotion commerciale, on me disait « ah ben non, elle a des enfants, ah ben non ». Je l'ai vraiment vécu. Et ensuite, quand j'ai fait le move pour aller chez Mouette NC, donc j'étais dans la division alcool, mais là j'ai retrouvé tous les progrès que j'avais vus chez Nestlé, où il y avait une ouverture d'esprit, où il y avait ce concept de diversité et inclusion, il est quand même très récent, et je suis complètement d'accord avec toi, que moi j'y crois à fond. Mais alors quand je suis arrivée dans une entreprise d'alcool, alors là, je suis retombée dans des stéréotypes, etc. Et moi, je considère que dans mon rôle, et étant manager et ayant des équipes, c'est mon rôle d'être super active là-dedans. Parce que je me dis que si moi, je ne le fais pas, bah, qui va le faire ? Personne. Donc, quand on est une femme et qu'on est à des rôles de management, on doit être hyper active là-dessus. C'est pas seulement aider à la promotion, c'est quand on voit un comportement sexiste dans l'entreprise, c'est être très vocal pour dire ça, c'est pas acceptable. Ça peut être encore une fois quand on veut promouvoir quelqu'un, il y a aujourd'hui des réflexions que j'entends encore et on doit fermement les condamner. Donc je trouve que dans les rôles que nous avons, ça nous donne un pouvoir et une responsabilité de le promouvoir. Mais je crois que ça existe encore. Pour avoir des amis qui font Polytechnique et filles, elles me disent que c'est compliqué sur cet aspect-là. Donc je pense que tu as beaucoup de mérite.
Si je peux rajouter, je pense qu'on a effectivement encore beaucoup l'image, je dis comme ça, de boys club. Et que le boys club, c'est super difficile de rentrer quand on est une femme. Et je pense qu'effectivement, au-delà même, enfin condamner, c'est une évidence. Je crois aussi, et c'est pour ça que c'est super qu'on soit dans une école aujourd'hui, hein. Je pense qu'il faut nourrir les générations qui viennent pour que ce concept même de boys club, il disparaisse. Et on ne va pas faire ça toute seule. Donc on a une position de leadership aujourd'hui dans la workforce et c'est là que nous, on doit agir. Et je pense qu'on a aussi une legacy derrière à faire en sorte qu'en tant que maman, on élève des enfants qui n'auront pas les mêmes biais pour que les enfants de demain dans la workforce ne vivent pas la même chose. Je pense qu'il y a un cycle qu'il faut vraiment qu'on réussisse à rompre. Je pense qu'on en est à une, deux, trois, peut-être générations, peut-être on ne sera plus là pour le voir. On a évolué quand même. Mais tu as raison, j'aime bien quand tu dis ça redescend, tu regardes les chiffres. C'est redescendu, c'est malheureux. Hein.
Ouais, c'est un combat ces dernières qui n'est jamais terminé. Ouais. En fait.
Donc c'est un combat qui n'est pas terminé. Ouais.
En tout cas, c'est un beau message que vous transmettez aussi par rapport au fait que vous êtes maman et vous avez quand même des positions de responsabilité dans vos entreprises. C'est pas soit l'un, soit l'autre, c'est aussi quelque chose qu'on peut combiner.
Ça, c'est très, très important. Moi, ce message, à chaque fois qu'on fait au sein de l'entreprise un événement sur les femmes dans l'entreprise et l'équilibre vie pro, vie perso, j'ai cette question-là. Est-ce que ça a été difficile en tant que maman de concilier une carrière et le fait d'être maman ? Alors là, moi, je suis toujours super claire. Moi, je suis maman d'abord. C'est-à-dire, j'ai jamais fait un sacrifice. J'ai jamais loupé une rentrée scolaire. J'ai jamais loupé une compétition de karaté. Je crois que parce que j'étais convaincue que c'était ma priorité, et ben ça s'est fait complètement naturellement. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais alors pour moi, il n'y a aujourd'hui aucun frein à concilier le fait d'être maman et d'avoir une carrière. C'est finalement un frein qu'on se met soi-même. Si par exemple, quand on doit partir tôt, parce qu'il y a un rendez-vous chez le médecin, on part un petit peu en catimini, en inventant une réunion à l'extérieur pour aller emmener le gamin chez le pédiatre, en fait, on est soi-même en train de se mettre une charge mentale. Moi, je pense que c'est beaucoup mieux de dire « Moi, j'ai besoin de partir, voilà. Mon gamin est malade, j'ai besoin d'aller chez le pédiatre. Hop, j'y vais. » Moi, je le fais aussi, encore une fois, ce côté vocal. Quand je dois partir tôt, j'avais des boss qui n'étaient pas toujours très ouverts là-dessus. Mais quand j'avais besoin de partir tôt, quand j'avais besoin d'être là à la rentrée des classes, je le disais clairement et fermement. J'inventais pas une excuse. Je disais « Moi, je ne louperai pas la rentrée des classes. Je serai là. » Je préfère soutenir le regard de mon boss qui n'est pas content que de soutenir le regard de mon gamin qui va voir que je ne suis pas là ce jour-là. J'aimerais, alors je ne sais pas si c'est cette génération, mais j'aimerais que ce ne soit même pas un sujet demain, ça. Est-ce qu'on peut concilier une carrière et le fait d'être maman ? J'aimerais que, dans la tête des élèves d'aujourd'hui du lycée, si c'est une question, mais j'aimerais tellement que ça n'en soit pas une.
Et c'est Margot qui a dit tout à l'heure, quand tu as dit, toi, tu t'es sentie, tu ne doutes pas de ta valeur, etc. Et donc, du coup, ça ne t'a pas gêné. Je pense que tu as complètement raison. Moi, je suis très d'accord avec toi. Et peut-être les générations même d'avant, hein. On a été élevés comme ça. Hein. Et cette charge mentale et cette culpabilité par moment d'avoir à choisir et de se positionner, etc. Moi, je l'ai vécu hein, très lourdement. J'ai eu énormément de chance parce que j'ai un compagnon de vie qui, lui, est un step up. Et du coup, j'étais très souvent en déplacement quand j'ai eu ma première fille. Et mon mari, en fait, a complètement pris le relais, ce qui m'a permis, moi, de baisser ma culpabilité parce que je ne laissais pas ni mes enfants à un étranger, etc. Ils étaient avec leur papa et donc, c'est très bien combiné. Mais effectivement, du point de vue de l'employeur, entre guillemets, ou du niveau de l'environnement professionnel, le regard est effectivement assez dur. Et donc, il faut les avoir, comme on dit, bien accrochés à l'intérieur, sa valeur et croire en soi pour faire ce que tu dis aussi, d'être vocal et de dire « oui, je fais ça et c'est mon choix ». Effectivement, moi, je l'ai fait. Et quand tu le fais, tu te rends compte qu'il n'y a pas de conséquences. Non. C'est nous qui nous inventons. Exactement. Aussi. On fait beaucoup de moulinage avant. On s'auto, entre guillemets, censure, réalimente, tu vois, et censure. Ouais. Donc ça, c'est un vrai message.
Je pense que c'est un très beau message à faire passer pour les élèves du LFB. Mais j'ai encore une dernière question. Est-ce que vous avez des exemples de femmes inspirantes à partager ?
Un exemple très concret et très récent. Alors moi, j'ai déjà toujours été passionnée par le sport. Et en plus, là, c'est un sport quand même complètement extrême. On parle du Vendée Globe. Je crois qu'il y en a encore un qui doit arriver récemment. Et donc, c'est Violette, qui a 23 ans, qui a fait son premier Vendée Globe et qui l'a terminé, et en plus, en très bonne position. Et moi, ça m'a marquée dans le sens où 3 mois en mer, toute seule, dans des conditions incroyables. Je trouve que on est au-delà de tous les défis. Enfin, c'est vraiment une inspiration incroyable. Et en plus, surtout sa résilience, toutes ses vidéos sur les réseaux sociaux, on la voit jamais se plaindre, toujours un grand sourire. Et ça a été quelque chose d'incroyable face à des marins qui ont 50 ans et qui se plaignent tous les jours et qui n'ont pas du tout la même énergie. Donc ça, c'était incroyable. Voilà.
Je l'ai trouvée très rafraîchissante aussi. En fait, elle a 23 ans, c'est la plus jeune femme à avoir participé à un Vendée Globe. Ça ne l'a pas arrêtée. Au contraire, elle s'est dit « je veux faire ce challenge, je vais le faire ». Et puis, mon âge n'importe pas finalement.
Et elle n'a jamais abandonné et elle avait surtout toujours le sourire et ça, c'était incroyable. Voilà.
Je vous propose donc de terminer notre interview sur cette belle note. Merci beaucoup à toutes les trois. Au revoir mesdames et bonne journée de la femme.
Au revoir.
Merci, au revoir.